Bienvenue, à présent, tout ce que je vous dirai pourra être retenu contre vous, car c'est enregistré.
Et du coup, tu peux... Enfin, les gens qui vont écouter le podcast vont pas savoir que t'as écorché tous les pseudos.
Voilà, vas-y. Je vais redire. Avec nous ce soir, Moebius, John, Zigazou, Vincent, Chiroptère,
New York.
Et quoi, j'en fous. On commence avec la Société française de radio-téléphone et qui en ce moment défraye la chronique des geeks.
Il y a Bluetooth. Et pas de manière laconique, ouais, justement. C'était les jeux de mots.
Alors pour l'info, ce qui a bien été diffusé sur le web, c'est Bluetooth qui avait publié comme quoi il y avait un proxy sur les connexions 3G de SFR. Voilà.
Oui,
qui... Parce que je disais qu'il ne choque pas, parce que c'est pour optimiser, surtout à l'époque du Edge, mais bon, ils l'ont pas enlevé, c'est un peu choquant.
Ouais, enfin disons que pour eux, la 3G, c'est pas la même chose que le web, quoi. Ils se permettent de limiter le... Enfin, ils appliquent pas les mêmes règles si, par exemple, la connexion vient de YouTube que si elle vient de Google.
Voilà.
Pour la bande passe anti-limite.
Juste, je m'annonce les titres et après on revient à ça. Ouais. Après, je vous expliquerai la fin de Google Reader et l'alternative que j'ai trouvée. Pour lire mes flux RSS. La Rickroll AP de New York et de tous ceux qui ont participé, puisque Vincent a participé, Frédéric Digazou a participé. Enfin, je vous expliquerai les prochains affiches qui rappellent.
C'est quoi Digazou?
Mais sérieusement, ce podcast qui est foutu là.
Juste.
Mais
trop
tard. Personne nous écoute.
Je t'ai pas aidé sur le Rickroll?
Si, tu m'as aidé.
Ou bah alors? Oui. Pourquoi tu rigoles?
Non, parce que j'avais dit ton prénom avant.
Non, il a écrit ton pseudo comme ça. Ah ah, Zigazou.
Bon, et par contre, en plus du truc de Bluetooth, t'as trouvé quelque chose que t'as un peu choquant chez SFR.
Ouais. Ouais, bah justement, en bossant pour cette app, donc comme ça, on tourne en rond, quoi. J'ai eu l'occasion de parcourir le code source de SFR. Enfin, leur page.
Oui, l'application de la Rickroll AP.
C'est ça. Et du coup. Pour regarder comment ils avaient agencé le code de leur portail, par simple valeur informative, bien entendu.
On fait que de l'informatif ici.
Oui, c'est pas de la rétro-ingénierie, juste on regarde ce qu'ils mettent à disposition gentiment.
Tu vas encore perdre ton bonnet.
On est des gentils.
J'assumerai, au pire, c'est mon nom qui apparaît derrière le site web, si on fait une levée d'anonymat. Et je connais pas ton vrai prénom et ton vrai nom, donc je me dis pas, je pourrais pas dire qui.
Ouais,
qui
Vincent étant un nom d'emprunt.
Oui.
Et donc, oui, un magnifique message
je pense que 29 février.
Mais on a déjà préparé le sujet, alors si vous trouvez des trucs inédits pendant qu'on est en train de le faire.
Ignore-les, allez.
Ouais, vas-y.
Ouais, parce qu'on n'avance pas. Et
On n'avance pas, nous.
Ligne 198, un magnifique message qui précise. Enfin, dans une div, donc un bloc.
Qui est masqué, utilisé.
Qui est pas masqué, mais on peut avec JavaScript, il me semble, je suis nul en JavaScript, mais
on peut l'afficher
que si, à condition que, bah, afficher cette div, sinon ignorer.
Mais par défaut, il est pas affiché, je veux dire, il est dans le code source.
Il est dans le code source, je l'ai pas trouvé de référence et d'appel à cette div dans ce qui était disponible comme script en JavaScript. Mmh. Après, il faut savoir que si j'utilise du PHP, notamment avec des include, on le verra pas dans le code source, puisque le PHP n'apparaît pas en que le JavaScript, le CSS et le HTML. Enfin bref, magnifique message du FBI donc qui prévient que l'adresse IP et l'adresse MAC. Oh, faut faire l'accent anglais. Non, je vais traduire la volée.
Le Bureau fédéral d'investigation vous a enregistré, votre adresse IP en conséquence d'une
violation potentielle
de la loi américaine. Référence numéro blablabla.
Voilà, un numéro fixe, on y reviendra après.
Mais alors, donc ça, ce message d'origine, là, il est en anglais.
Oui.
Sur une... Est-ce que tout simplement. Est-ce que dans l'histoire. Est-ce que dans l'histoire, ils n'auraient pas. SFR n'aurait pas récupéré un outil qui viendrait des États-Unis Oui. Ah, oui, pour l'installer sur leur truc et ils ont pas fait tout à fait.
Ben non, après j'ai regardé comment ils agençaient les styles par défaut, je sais pas, par exemple le contenu ou machin, et c'était du franglais dans les règles de l'art, quoi. Enfin, comme tout développeur qui se la pète un minimum fait quand il est de nationalité française, quoi.
On va faire un petit Google Doc.
Oui. Non, mais en sachant que, en temps, sachant ce qui est marrant, c'est la référence à FBI, alors que SFR, c'est quand même radio, quoi. Enfin,
oui, mais on va y revenir à ce code, parce qu'on en a parlé aussi sur Twitter. Et donc, j'ai écrit sur Twitter au staff d'SFR pour leur demander, mais c'est quoi ce truc au milieu de votre code source, un message qui fait part comme quoi le FBI a notre adresse IP, alors que manifestement, vous êtes une société française avec des serveurs hébergés en France, qui du coup ne sont pas sous le coup de la loi états-unienne. Et réponse, les intéressés, merci.
Il y a Mou et Gus qui sabotent les notes.
C'est ça, mais ils font rien que de m'embêter depuis tout à l'heure. J'ouvre le podcast et ils n'arrêtent pas de nier mon élan.
Rien que d'embêter les auditeurs aussi, alors bon.
Non,
bon, bah, sujet suivant.
Non,
ah ouais, je suis vexé, je suis vexé.
C'est sympa, moi.
Bref, on reprend. Le compte SFR SAV qui me répond donc. Bonjour, le message que vous rencontrez est pour vous informer que la session sur le hotspot est enregistrée sur le serveur. Pour le cas où des actions illicites sont effectuées, je reste à votre disposition. Point. Bon, apparemment, ça les choque pas plus que ça que ce soit le FBI. Alors, moi, je voyais à une coquille ou une blague de développeur. Et du fait qu'ils ne démentent pas automatiquement ça, bah, ça m'a mis en esprit un doute direct. Et ça me semblait plutôt limite comme façon de pratique au niveau le respect de la vie privée et même législatif.
T'as l'obligation d'enregistrer, après c'est le problème que ce soit le FBI. Hein.
Bah, ce qu'il y a pour des serveurs français, faire suivre au FBI, je comprenais pas trop la logique.
C'est trahison.
C'est ça. Ça doit être eux qui ont envoyé les avions dans les tours.
On a le petit côté anti-américain de Malibu qui ressort.
Ah, mais c'est, après, c'est le même mec là, il cherche un nouveau De Gaulle, mais par contre, il balance aux Américains, alors bon.
Enfin, bref. Donc après, bah, j'en ai fait part à un journaliste, Jean-Marc Manac, sur Twitter, toujours, qui est vachement intéressé sur les problèmes de protection de vie privée, pour leur dire que je trouvais ça un peu limite, si c'était avéré. Et après, on a greffé dans la conversation Bluetooth, donc celui qui a...
Oui, qui dernièrement se révoltait contre le proxy
de SFR, oui, qui a mis en évidence encore des problèmes chez SFR.
Alors ça a été démenti, donc comme j'ai pas vérifié, je préfère parler au conditionnel.
Ouais, enfin, j'ai parcouru à l'arrache quelques billets de blog et ça semblait assez... Enfin voilà, il y avait des contre-tests, mais ils n'avaient pas fait pour tous les flux.
Alors moi j'ai vu un contre-test où les mecs ils avaient testé Google HTTPS et Facebook HTTPS aussi, donc ça marchait pas. Mais
oui. Mais par exemple pour ce qui est flux de vidéo, tout ça, voilà, ça donne pas.
Ouais.
Et donc on suppose que c'est une blague des développeurs, puisque ni dans le JavaScript ni ailleurs on voit un appel à cette fameuse ActDiv. Et donc plus tard il y a le SAV SFR qui me retweet à nouveau bonjour, après vérification il s'agit en effet d'un canular informatique, désolé pour ma dernière réponse. Donc visiblement il semblerait que ce soit les développeurs qui se sont amusés à mettre un faux message. Effectivement.
J'y crois pas une seconde. Mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'elle ait pris le temps d'aller faire la vérification et qu'on lui demande, parce que je pense que celle qui répond à Twitter n'a pas forcément l'initiative, on lui demande de démentir, de dire que c'est un canular, ça veut dire quand même qu'ils s'inquiètent un peu pour leur com en ce moment à SFR.
un petit peu, bah, surtout quand. Voilà, après les gens qui étaient dans cette discussion, voilà, il y a trois personnes notamment qui sont intervenues, plus Mobius. Donc Bluetooth. 9700 abonnés, Jean-Marc Manac, 45 000 abonnés, et que des gens qui sont quand même assez influents au milieu du web.
Ouais, 200 abonnés.
Ouais, bah, c'est quand même pas mal.
Si vous voulez, je vais passer, j'en ai 7, je crois.
Bah vas-y, fais coucou. Et un autre 16 000 abonnés. Donc pour un total de,
oui,
de 60 000 abonnés, ça peut faire du bruit quand même.
T'as eu du retweet de quoi?
Ouais, quand même. Enfin bref, c'est pas l'intérêt de la chose, mais c'est juste que oui, il devait avoir un petit peu les boules quand même.
Si on peut faire couler SFR au passage, vraiment dommage.
Faudra un peu plus de retweets.
Hein. J'ai jamais rien contre SFR.
Même dans Trending Topic, je sais pas si ça leur fait beaucoup de mal. Mais
quoi, t'as des actions chez SFR?
Non, j'ai rien contre SFR. Encore Orange, il y a des billets sur mon blog qui expliquent pourquoi je les déteste.
Et donc voilà, apparemment, bah, grosse blague, donc on se marre bien chez SFR.
Tiens, j'ai un truc à ajouter sur SFR, c'est que ce mois-ci, ils ont tout bêtement, entre guillemets, c'est une erreur, une fausse manip, ils ont coupé l'accès à internet de ma sœur. Voilà.
Ah mais ça arrive souvent ça.
Fausse manip.
Nous te remercions, Moebius, pour cette intervention intéressante. Oh, pour l'IA pertinente. Voilà.
Non, mais donc, pour te dire le sérieux de la boîte, quoi. Enfin, fausse manip.
Moi, je tiens à ajouter quand même que ma mère était fait aller courses hier.
Mais, je propose qu'on fasse une minute de silence et que les auditeurs éventuels de ce podcast nous suivent dans cette minute de silence pour la sœur de Moebius. Donc voilà, on va démarrer la minute de silence.
Même la quête de la faire entier.
Non mais chiche. Franchement, c'est... C'est dingue de couper un abonnement internet par erreur.
C'est souvent hein, qu'il y a des merdes comme ça administratives. Enfin, souvent.
Ouais, je pense que là, il y a quelque chose sur l'opérateur, à mon avis, des merdes comme ça.
Ouais. Même chez Free, hein.
Bah, chez Free, de toute façon, si tu captes, c'est pas mal, quoi, donc.
Même chez OVH, je veux dire, tu prends un abonnement à un site internet, au bout de 6 mois, ils te le coupent. Ah bon, vous êtes pas arrivé à bout.
T'as déjà vu des baies de brassage?
Putain.
Non. Non? Bon, bah, y a rien qui ressemble plus à une prise dans une baie de brassage qu'une autre prise ou des trucs comme ça. Donc, tu veux qu'ils arrivent à couper une connexion internet comme ça? Ça arrive.
Bon, c'est quatre fois que je vous montre la baie de brassage au boulot.
Non, mais c'était une résiliation.
Ça donne une bonne idée quand même.
C'est autre chose. Quoi.
Il suffit qu'ils soient trompés sur le nom de famille. Ouais. Ils se sont trompés d'une lettre sur le nom de famille.
Ah, c'est même pas ça. Voilà. T'as des baies en cuir, c'est une paire, t'as un picot qui arrive. C'est des lignes de je sais pas combien, de 8 et voilà. Et parfois, la numérotation, parce que souvent le mec il a ses numéros, entre guillemets, la numérotation, c'est pas... Moi, j'ai une baie de brassage qui est dans un sens et une autre, parce qu'on est numéroté dans l'autre, quoi, tu vois.
Voilà. Et vu que SFR fait une société qui fait de la discrimination positive, il suffit qu'il y en ait un strabisme.
Ouais. Dans mon bureau, pour donner un ordre d'idée, il y a deux prises téléphones.
À cause de la sœur de Samir.
Donc, apparemment, tu peux penser que l'une des les deux prises, ils savent où elles arrivent. Eh ben non. Moi, ma prise téléphone ne fonctionne, la prise de mon collègue ne fonctionne pas. Et comme ils n'ont jamais réussi à trouver où elle arrivait, ils lui ont donné un DECT.
Ouais, mais
un téléphone sans fil.
Mais okay. Je t'avoue que je suis pareil. Moi, je fais du brassage 340 lignes de téléphone. L'endroit où je travaille, c'est moi qui fais le brassage.
Vous m'excuserez, les gogos, mais
ça m'arrive de perdre des fils.
C'est ça, sérieusement.
Ouais. À la rigueur, on recommence.
Ça m'arrive de perdre des fils. Désolé.
Non, mais là, on a perdu le fil. C'est carrément la bobine qu'on a perdu.
Moi, mais.
Vas-y, termine alors.
Je te propose un titre pour ce podcast. Tu mets le podcast chaotique.
Donc, bref, pour résumer, un message complètement bizarre et incongru sur un code source avec des références des numéros de référence comme message d'erreur numéro temps ou enregistrement de l'avertissement temps où c'est un numéro fixe donc chaque utilisateur verrait le même, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, enfin c'est pas très ça peut paraître bizarre disons pour faire ce cours. Et pas mal de tweets après, finalement, SFR qui vient dire non, mais en fait, on s'est un petit peu gouré, c'est une bonne blague. Donc, voilà, en gros.
Mais il y a un rebondissement après, je l'avais dit.
Un re-rebondissement?
Oui, ils te demandent plus de détails, non?
Ah, non, mais ils m'ont demandé d'envoyer la page concernée et puis un numéro de téléphone.
En sachant que la page concernée, c'est comme c'est la page de la paix free.
Oui,
de la
paix SFR. Oui, c'est, bah, c'est le portail quand on se connecte à la box. En fait, il fait la redirection vers...
Je crois qu'ils ont mis un nom quand même.
Oui, oui, bah, il s'appelle https://hotspotwifi.sfr/index.encryptchili.php.
Tu veux, en gros, cette évolution-là donc, de la position de SFR via son community management, c'est quelque chose de très classique. Comme je disais tout à l'heure, on place sur ces postes-là des personnes qui sont en fait chargées de temporiser et de soulager en fait les équipes techniques qui sont après, et qui elles prennent en charge les problèmes.
C'est
un peu comme à la SNCF. Hein. À la SNCF, on va t'annoncer que bah, y a un problème de courant électrique, alors qu'en fait, c'est une personne qui est tombée sur la voie ou n'importe quoi.
On va pas t'annoncer en disant bon, à cause d'un suicide.
On va pas te dire le chauffeur de train a été chopé un peu trop ivre pour venir piloter le train.
Bon, bref, c'est quoi le projet suivant?
Alors, le sujet suivant, c'est la chronique USA de moi et plus.
La chronique.
Il y a toujours quelque chose de mal à dire sur eux.
Alors, qu'est-ce qui s'est bien passé aux États-Unis cette semaine?
Que s'est-il passé aux États-Unis cette semaine?
Bah, comme ils ont peur de la Corée du Nord, ils ont mis des missiles partout.
Ouais, c'est un bon début.
C'est quoi le rapport avec Internet?
Bah, je sais pas. Bah, attends, il n'y a pas Internet en Corée du Nord, alors bon, faut bien en parler quand même de temps en temps, même si bon.
La mallette avec les codes.
Ah, si, oui, tiens, la mallette. Je l'ai pas fait la dernière fois, mais alors AT&T a été élu le fournisseur d'accès de télécommunications le moins respectueux des
droits de l'homme. Il y a une autre info que j'ai vu passer tout à l'heure. Il y a un hacker, alors j'ai pas lu en précisément, mais en gros il a incrémenté une URL de chez AT&T avec ça serait référé aux iPads, et donc il est arrivé à avoir des données personnelles juste en faisant incrémenter une URL, et le juge aux États-Unis donc l'a condamné à 3,5 années de prison.
Par contre, Apple n'a rien eu lu.
Hein? Non, bah c'est AT&T. C'est AT&T qui est... Enfin, apparemment, c'était des données à eux.
Ah, d'accord, ok.
Ou ATT en français.
Ouais.
Dix, le mec qui vient de passer 5 minutes à se demander ce qu'était AT&T.
Qui nous a parlé de hackage.
Je vous propose de passer.
C'est un peu comme dans le.
American Telecommunication and Trading.
C'est un peu comme la cité de la peur. Je crois que nous avons affaire à un serial killer.
Ah, tu renseignes quoi.
Juste deux doigts.
Sujet suivant, c'est un grand débat. À votre avis, est-ce que Windows 98 est mieux que Windows 95?
Oui.
Suivant.
Alors, le sujet suivant, c'était la fin de Google Reader, vous l'avez tous vu. Google n'aime pas les services qu'on peut d'utilisateurs. Je veux dire, mais moi ce qui me fait marrer, c'est que l'échelle d'utilisateurs, j'imagine qu'ils en ont des millions. Moi il me file à Google Reader, j'y mets des AdSense dessus et
ouais, mais en même temps, personnellement, je vais reprendre quoi. Plus ils ferment des services, plus je suis content personnellement. Bon, après.
Voilà, et je voulais juste vous parler.
Perso, je l'utilisais pas.
Perso, j'ai appris son existence par sa fermeture, donc.
Je l'utilisais pas, donc je tenais à savoir. Que tout le monde sache en fait que je m'en fous.
C'est quand tu veux vraiment suivre certains blogs, c'est sympa.
Je trouve qu'il faut pas s'en foutre. Ils ont fermé grosso modo en prévenant deux jours avant.
Ouais, puis c'est un
mais attends, c'est le principe déjà de Google, ils font ça régulièrement.
Ouais.
Et ensuite, ils te mettent à disposition un service gratos, point quoi. Ils font ce qu'ils veulent.
Oui, c'est vrai.
Ouais, bien sûr, mais en attendant, Google Reader, c'est quand même un service beaucoup plus utile que n'importe quel. Enfin, grosso modo, à part Gmail, leur moteur de recherche et
YouTube.
Si les agendas partagés, t'es sympa, même si j'en suis.
Il y a Google Reader, Calendar, et tout le reste, c'est de la.
Si ça rapporte rien.
Google Reader.
Non, Google Analytics, c'est quand même super.
C'est vrai que sur Google Reader,
ça rapporte rien.
Et les flux réseau, à mon avis,
ils ont aussi les moyens de prévenir une semaine avant pour que les gens backup leur URL. J'utilise autre chose.
À la rigueur, ça je m'en fous.
Il y a aussi le petit signe que c'est la mort du RSS quand même un peu. L'utilisation du flux RSS, ça me demande si c'est pas.
Bah, l'URSS, c'est une technologie intéressante, mais qui reste assez haute.
L'Union des Républiques Soviétiques Socialistes.
C'est la chute des communistes.
Sur voilà, bah y a pas eu les bonnes personnes à la tête quoi. L'idée de base est pas mal mais. Bon, la famine c'est quand même ils ont déconné.
Ouais, mais les goulags c'était bien.
Non, par contre, quitte à faire du gratuit.
Vous pouvez quitter, je crois pas qu'on fera mieux ce soir.
Ouais. Donc. Non, mais on va fermer le service de podcast, je pense.
Il y a encore des filles.
Non, par contre, ce qu'il pourrait faire, c'est ouvrir le code source. Des gens, je suis sûr.
Google, vers du livre.
Alors, bah, tant qu'à faire du gratuit.
Sans gagner de pognon derrière, c'est pas possible.
Non, mais franchement, ce serait bien qu'il le.
Moi, je l'ai utilisé une période.
C'est un amant, je l'utilisais pas forcément maintenant.
Moi, la rigueur, je trouve ça très très bien parce qu'en même temps, ça démontre parfaitement. Comment, bah, quand on met ces services entre guillemets dans le cloud
un mois, je crois, ou deux pour rapatrier.
Ouais, enfin, je veux dire, un mois ou deux, je suis désolé, mais je suis déjà parti en vacances en plus d'un mois ou deux.
Alors, je cherchais une alternative, il y a des logiciels libres qui ont été publiés, et notamment Open Web Reader qui fait exactement la même chose. Par contre, son auteur l'a pas mis à jour depuis 2010.
Bah, on peut le faire.
Je l'ai mis en service pour le moment sur openwebreader.inad.fr, mais c'est ma pub. J'ouvrirai le truc que tout le monde puisse inscrire. Parce que le développeur n'a pas fait que tout le monde puisse inscrire. Il faut vraiment que moi je fasse manuellement inscrire chacun. Donc si jamais je suis en train de bidouiller mon PHP pour faire un module d'inscription. Si jamais il y en a qui veulent une alternative, voilà. openwebreader.inad.fr. Et si jamais
question,
je mettrai la pub dessus.
Question qui m'interroge. NetVibes, ça existe encore ou pas?
Oui, il y a des alternatives là.
Je l'ai jamais utilisé.
NetVibes, c'est quoi? C'est quoi?
C'est un agrégateur de flux RSS aussi. Là.
Non, moi, c'est quoi le RSS?
Mon client mail fait agrégateur de flux RSS, je l'utilise comme ça, mais jamais j'irai utiliser un serveur web pour ça. De parler, partir, c'est très personnel finalement. Le
ça fait de gros paquets envoyés quand même.
C'est assez personnel, je trouve qu'il faut vraiment que ça reste.
Le RSS, c'est convivial.
Il y a énormément de choses qui sont très personnelles, même la plupart de tes recherches sur Internet. Ouais. Et c'est vrai que Google, la plupart des choses qui sont mises à disposition gratuitement des gens, c'est fait pour améliorer leur business. C'est-à-dire que Google Analytics, c'est super, c'est des services gratuits. N'empêche que tous ceux qui installent Google Analytics sur leur site, ils filent toutes leurs statistiques de visite à Google. Ouais. Ça, c'est énorme. Ah, effectivement, par contre, l'outil derrière, il est magnifique. C'est le plus performant Analytics, c'est quand même bien en avant par rapport à Piwik. J'aime bien Piwik, je l'utilise, mais effectivement, Analytics est beaucoup plus poussé. Mais par contre, effectivement, il faut aimer donner ses données à Google. C'est pareil, tu vois, tous les services, là, tu peux installer ta Google Maps sur ton site web. Ouais, ça veut dire qu'en gros, sur cette page-là, Google sait qui arrive et qui passe. Même si tu n'es pas sous Analytics.
Du coup, tu as des alternatives à chaque fois. Moi, je préférerais mettre du OpenStreetMaps, par exemple.
Mais bien sûr.
En pratique, assez aberrant.
Sauf que OpenStreetMap, il a fallu attendre avant qu'il soit pleinement utilisable.
Mm-hmm. Moi, je connais un informaticien dans un hôpital, c'est pas moi.
Ah.
voilà, qui comme moi a développé son intranet maison. Et pour suivre ses stats. Pour suivre ses stats sur son intranet maison, il a ouvert l'accès à l'intranet à Google, puisqu'on peut faire ça. Hein. Et du coup, il a un Google Analytics sur son intranet local où il y a des données, où il y a les noms des résidents et tout ça qui
apparaît. Affligeant. Okay. Je sais même pas s'il a le droit de le faire.
Je pense qu'il n'a pas le droit.
Je crois qu'il n'a pas le droit, et en plus, d'un point de vue écologique, c'est complètement débile.
Écologique.
Non, je veux dire, un truc où tu n'as que des machines locales qui vont fonctionner.
Oui, c'est clair.
Là, tu vas arriver 60 machines sur la route pour le seul plaisir de revenir sur place pour lire tes données. Je veux dire, c'est complètement con quand même.
Donc, je lui file les tuyaux de ta Piwik. Hein. Moi, je fais ça. Alors, le site, mes sites à moi, entre guillemets, publics, sont j'utilise Analytics. Pour le site de mon employeur, c'est Piwik.
Pareil, qui peut difficilement revenir en arrière aussi.
Tous tes documents dans Google Drive.
Qui peut difficilement revenir en arrière, ça veut dire qu'il perd énormément de statistiques s'il change de service.
Si, il y a des outils, j'ai réussi. Il y a quand même une API Google, il y a une API Analytics, et on peut importer ces anciennes données Analytics dans Piwik, je l'avais fait.
Ah ouais. Ouais, mais tout ce qui est Google Drive, même Gmail, tous tes mails sont analysés par Google pour pouvoir mieux te vendre de la pub.
Alors la manip n'était pas simple pour un professionnel, mais c'est faisable.
Fait Microsoft pour toi.
Je vous propose que vite fait on parle de la Rickroll AP. Donc c'était le point Wi-Fi qui, au lieu de donner accès à Internet, envoie sur la vidéo de Rickroll.
Vas-y.
Voilà. Parle-nous.
Alors, la Rickroll AP. La semaine dernière, j'avais fait une première version en utilisant Squid et SquidGuard. C'est-à-dire que grosso modo, il y avait une règle qui dit tout est interdit sauf le site qui est sur la passerelle et qui par défaut te redirige vers le portail puis la vidéo Rickroll. Avec Zigazoo tout à l'heure, j'avais le problème puisque j'en ai voulu le mettre sur un Raspberry qui n'a qu'une carte réseau. Je ne pouvais pas faire la même technique que Squid et SquidGuard. Et Zigazoo a eu l'éclair de génie et il a fait « Et si on faisait un DNS menteur ?» Voilà, donc là on a trouvé une technique plus simple.
Plus précisément, ça s'est pas présenté comme ça. Ça s'est présenté en arrivant. J'ai vu Niar qui utilisait Squid, SquidGuard et compagnie. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu t'emmerdes avec ça, quoi?
Bah oui. Mais...
Alors qu'il suffit de coller un DNS Black Hole.
Voilà, vous pouvez chercher à faire la recherche sur Google DNS Black Hole. Et pour la Rickroll AP, je publierai les sources dès qu'elle sera un peu plus propre. Enfin, le temps de mettre au point, etc. Mais qu'il n'y ait pas de grosses failles dessus. Ensuite, le dernier point du podcast. Je vous propose la semaine prochaine, si vous êtes d'accord, de refaire des défis de hackage.
Oui, et tu proposes quoi?
Je vous propose de vous mettre un proxy. Mais un proxy qui marche en liste blanche, c'est-à-dire que vous avez le droit d'aller que sur les sites autorisés. Et vous devrez réussir à contourner le proxy. En sachant que moi, je ne sais pas comment faire. Je sais le mettre en place, je sais pas comment le contourner.
Ok.
Sans attaquer physiquement la machine avec les dents et les pieds. Et c'est un proxy qui est physiquement, la passerelle du proxy n'est pas sur le LAN normal. Il y aura deux cartes réseau. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce podcast?
C'était la merde.
Non, mais je voulais parler quand même du fair trade électronique.
Ah, je suis désolé, t'es là, mais je t'ai oublié.
Il a pas arrêté de nous couper.
C'est quoi le fair trade?
Alors, explique-nous, s'il te plaît.
En plus, j'avais noté, je suis désolé.
Le fair trade électronique, c'est à la fois. Il y a une. Alors, je sais plus si c'est une entreprise ou une fondation qui s'appelle comme ça. Sinon, globalement, c'est un mouvement un peu plus large qui veut que. L'informatique actuellement, du point de vue matériel, quand on regarde du point de vue écologique, c'est à chier. Quand on regarde du point de vue social, c'est à chier. Mis à part à l'utilisation, c'est pourri à peu près tout le temps, l'électronique et l'informatique aujourd'hui. Donc le principe, c'est d'appliquer le commerce équitable, en fait, à l'électronique, pour éviter de passer par exemple ce qu'on appelle les minerais du sang, c'est-à-dire que la moitié des minerais qui sont utilisés pour faire nos machines sont exploités uniquement dans des zones de guerre où du coup elles deviennent des monnaies d'échange énormes.
Et pourquoi il y a des guerres à ton avis?
Hein? Oh, c'est des zones de guerre parce que là je remonte à la colonisation, je vais devenir très chiant donc on va arrêter là. Parce qu'en règle générale c'est exploité en Afrique donc voilà. Le principe c'est de faire du matériel sans obsolescence programmée par exemple, pour durer le plus longtemps possible, le plus facilement recyclable, fait avec des matériaux...
côté développement durable, électronique quoi.
Ouais voilà, ajouter vraiment le... je voulais en parler, que les gens le sachent, parce que je trouve que le principe est bien. Et donc s'il y a une société, donc Fairtrade Electronics, qui va sortir normalement bientôt un smartphone. Le principe, c'est que dans 50 ans, théoriquement, il marche encore. Il n'y a pas eu besoin de le bazarder. Alors après, ça me paraît un peu forcément illusoire, étant donné que déjà, en 10 ans, vu comment les normes ont bougé, je doute que dans 5 ans, ils soient encore utilisables.
Les protocoles seront plus les mêmes.
Ne serait-ce que les protos, ils seront tombés. Mais en même temps, après tout, une antenne sera toujours une antenne. Pourquoi pas imaginer un upgrade du firmware et puis on change de bande, on change de pourquoi pas.
Ouais, ou une base évolutive.
Là-dessus, j'y crois pas trop, parce que généralement, tout ce qui va évoluer, par exemple en termes de débit, en termes de tous ces trucs-là. Et autant dire qu'en 50 ans, les médias, à mon avis, vont encore exploser.
Oui, mais oui. Ça, on en a rien à foutre tant que le truc marche. Le principe, c'est que le truc marche. Il est pas censé, déjà, quand il sortira, être à la pointe de la technologie. Il sera déjà dépassé depuis au moins 10 ans. Hein. Bah, le principe n'est pas là. Le principe, c'est de, par exemple, utiliser un écran à encre électronique plutôt qu'un écran LCD, parce que ça consomme énormément moins. C'est d'utiliser, voilà, le principe, c'est vraiment d'utiliser des choses dépassées, mais le but, c'est que ça tienne. C'est pas du tout d'être moderne, c'est pas du tout... Donc les débits, on s'en fout. Le seul truc, c'est qu'ils puissent s'adapter au réseau, quoi.
Puis à la campagne, il y a toujours des gens qui utilisent des lignes téléphoniques qui vont sur les 50 ans pour avoir Internet, de nos jours.
Alors, le déploiement du téléphone, c'est sur les années 70, quand même.
Alors... Et ensuite, effectivement, le câble est le même. Par contre, autant dire que les équipements qui sont au bout des câbles, ils ont changé quelques fois quand même.
Oui, mais c'est le principe du fait que ça soit évolutif. T'as quand même des relais. Alors,
c'est pas que c'est évolutif, c'est qu'on a trouvé des solutions pour que ce soit évolutif.
Oui, mais
Au début, le but n'était pas de rendre ça évolutif. Hein.
Oui, mais on peut peut-être concevoir. On a la preuve que même en le cherchant pas forcément, on arrive à s'en sortir. Alors peut-être qu'on peut supposer et réfléchir pour chaque composant ou chaque partie du téléphone, chaque groupe fonctionnel, comment il pourrait être amené à évoluer dans le futur, à quelle vitesse on progresse, quelle loi de progression. Il y a des trucs...
Tu vois, regarde, le problème là-dessus, c'est que tu pars autant sur 10 ans. Déjà, tu as de grandes chances de te gourer. Mais alors, sur 50 ans, la probabilité de te gourer, elle est énorme.
Après, faire ensemble.
Regarde, à la fin des années 90, beaucoup pensaient que les microprocesseurs augmenteraient en fréquence sans arrêt. Et en fait, non. Ils se sont pété la gueule contre une barrière physique. Et là, ce que tu vois maintenant, c'est qu'on ne cherche pas tant que ça à augmenter les fréquences des processeurs, mais on va multiplier le nombre de cœurs. Ouais. Parce que justement, augmenter...
En fait, la barrière physique, c'est qu'un électron a besoin qu'il y ait au moins en largeur dans le tuyau, deux atomes de cuivre, pour passer. C'est ça l'idée.
Oui, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que plus tu augmentes ta fréquence...
Mais plus tu réduis...
Plus tu augmentes la fréquence, plus tu as une puissance à gérer. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, les processeurs ont baissé de tension. Parce que justement, rester à 5 volts à plusieurs gigahertz, c'est. Tu fais chauffer ça de façon énorme.
Bon.
Voilà. Après, on pourra en faire un sujet de podcast, moi, sur l'obsolescence programmée. Après, il n'y a pas parlé de tout, mais il y a des trucs qui me révoltent énormément. Notamment avec mes fournisseurs actuels, etc.
Oui. Les produits Apple.
Non, même pas. En me restant plus français, plus Europe,
Apple,
Alcatel ou ce genre de produits.
Typique, quoi qu'Apple, l'obsolescence est de moins en moins programmée, elle est de plus en plus subite quand même.
Ils la font quand même, tu sais, le coup de changer, la prise pour le
dernier iPad, sur l'installation 50 000 euros,
ou le dernier iPhone, alors que finalement la prise précédente aurait très bien pu fonctionner.
C'est même pas de l'obsolescence programmée, c'est de l'obsolescence provoquée.
Oui.
c'est vraiment...
Tu veux, elle est programmée dans le sens où ils savent qu'ils vont sortir un iPhone tous les temps.
Ils font 4-5 modèles, le temps que la vente des accessoires, qui est toujours beaucoup plus lente que celle du produit...
C'est pas Kiropta qui nous a dit qu'il avait développé un logiciel avec un bug aléatoire entièrement ?
Non, c'est pas moi, c'est un mec qui lui a vendu à une mairie un logiciel voilà, il y avait un nombre d'itérations. Enfin, le logiciel était prévu pour faire une action un nombre aléatoire de fois, et une fois qu'il arrivait à ce point, le programme plantait lamentablement, ne redémarrait pas, sans que le mec repasse derrière et puis le relance manuellement, voilà. Comme ça, la mairie est obligée de l'appeler aléatoirement toutes les deux semaines, tous les mois et demi, quoi. C'est plutôt bien pensé d'ailleurs. Enfin,
ouais.
J'y songe de plus en plus.
Et je pense que c'est très.
En fait, il aurait dû faire plus simple. Il aurait déjà programmé sous Windows et ça serait produit naturellement.
Non, mais j'étais programmé sur. En plus, c'était un VB, mais. Bon. Bien, au cas où le VB remplirait pas son office, il avait prévu quand même qu'il plante automatiquement. Quoi.
C'est bon.
Donc ça, on a trollé sur Microsoft, ouais. C'est fait.
C'était bien vu, on ne sentait pas venir, mais voilà.
Mais il fallait. Un podcast sans troll sur Microsoft, c'est pas un podcast.
Quoi. Ouais, mais du coup, on a arrêté un peu le troll Apple, c'est dommage, parce qu'il le mérite. À la rigueur, avec le temps, je commence à adorer Microsoft quand je vois l'autre en face, tu vois, mais bon.
Tu dis que Microsoft est pas si pire.
Ah ouais,
voilà. Ouais, Windows 8, c'est bien.
Ouais.
Je l'ai pas utilisé.
Ah bon, il y a Windows 8 ?
Si, je vais vous dire. Windows 8, il est bien parce que il apporte Internet Explorer 10.
Ah oui.
Et on va dire que c'est non mais attends, c'est pas pour jeter des fleurs à Microsoft Mobile. C'est l'un des premiers navigateurs Internet Explorer qui respecte un minimum les standards et qui est un minimum utilisable. Voilà.
Wow.
Non, attends.
Un minimum utilisable. T'as vu l'interface que ça a, ce bordel?
Je parle du point de vue du développeur web.
Tu le savais que t'allais avoir ce genre de réaction.
Je parle du point de vue du développeur web.
Je sais pas si vous avez vu.
Quand tu t'es tapé la tête avec Internet Explorer 6 déjà, bon. On s'en est tapé pendant des années de la compatibilité Internet Explorer 6 et ça m'a gonflé, mais grave. Le 7. Qui a eu quelques rustines, donc il supportait déjà le PNG 24 bits, alléluia, quoi, enfin le truc, mais de...
Ah, bah ouais, alors que tout le monde supportait ça depuis web, des années. Avec ça, j'ai de bons souvenirs de
Internet Explorer 8, voilà, il n'y a vraiment qu'à partir du 9, où là, tu peux faire quelque chose de sympa, et le 10, où il supporte un maximum de... Les nouveautés du HTML5, du SVG.
Le seul gros point noir que j'ajouterais là-dessus, c'est que depuis quelques mois, là, mon job principal, c'est repasser tous les gens que j'ai autour de moi, réinstaller du Windows 7 sur leur machine en 8. Hein, donc, je suis pas sûr qu'il sera si utilisé que ça. Mais bon.
Si, non, mais il y a eu le même problème.
Vista était un véritable.
Bah, l'interface Aero, c'était.
C'est même pas ça.
J'ai vu en quelle année il est
Vista, c'est un bouffe.
Vous allez un peu sur Usenet, il y a le alt.hacker où il parle, mais alors, quasiment 80% des posts sont sur Windows 8 et Ultrash, tout ça.
Windows 8.
Et sans citer le site, sans citer le site que c'est, vous trouvez pas que les couleurs et le design avec des petits carrés, on croirait Windows 8?
Ouais. Bon. Ça commence à y ressembler, c'est vrai.
Ouais, je trouve aussi.
Ouais. Non, mais ça se voit, non. Ça se voit de plus en plus sur les sites.
Je parle du site qu'a développé Zigazoo.
Alors, en tant que développeur web, je ne suis pas web designer.
Non, mais par contre, ce que tu pourrais faire, c'est simplifier. Tu mets une icône et à chaque fois que tu cliques, tu as un petit menu déroulant qui va dessous. Et puis, là, tu peux faire des pages en JavaScript qui vire comme ça et tu fais par thème, du coup t'as une icône, tu cliques, t'as le menu déroulant, toi t'en fais une bleue, une jaune orange.
Tu voudrais qu'il mette un bouton démarrer sur son site.
Ouais. Dans l'absolu, ouais. L'autre fois je suis tombé sur le site web d'un mec qui s'était fait un CV en flash, donc pour présenter ses compétences de développeur web et... En fait, t'avais une télé, alors je sais pas trop, ça démarrait dans l'espace, et t'arrivais à une télé, je me rappelle plus de la transition, et la télé, en fait, c'était un ordinateur, et t'avais des boules affreuses qui se déplaçaient à chaque transition. Hein, tu te rappelles de celui-là?
Oh, oui. Oh, que je m'en souviens.
Pour montrer ses compétences en flash, en gros, je crois qu'on a atteint le point Godwin de ce qui peut se faire en web quand... On arrive à la page où le menu, en fait, il faut taper une boule en face de l'item du menu avec une queue de billard complètement foireuse dans les déplacements. Hein. XY, enfin, c'est un développeur, c'est pas un matheux. Et faut taper dans la boule, en fait, et ça sélectionne l'entrée du menu. Enfin, normalement.
Voilà, on dit au revoir aux auditeurs, elles sont tout le monde ensemble.
Hein, oula, ça, ça marche jamais, ça, Niark.
Au revoir les auditeurs.
Salut. C'est loupé.
C'est loupé, c'est pas grave.